Nzamba.
Nzambira Samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes samedi 18 décembre 2021. Vous suivez bien la radio Nzamba Agathe Kakaoui. C'est le moment du journal, dont voici d'abord les titres. Où se trouve la dépouille d'Innocent Baloutouana Yos, membre du CNL, mort il y a deux semaines, torturé par les services des renseignements à Kayanza et à Bujumbura? C'est la question que se pose sa famille, qui a fait le tour des morgues dans la mairie, mais en vain. La situation du Covid-19 s'est tellement aggravée au Burundi que les autorités ne peuvent plus s'en cacher, prenant même de nouvelles mesures pour contrer la pandémie, à l'instar des autres pays de la sous-région notamment. Et puis, cette mesure qui fâche, tous les fonctionnaires de l'État devront désormais rendre compte aux administrateurs communaux. Le mini-magazine Au cœur de la société nous plongera dans ce dossier. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Commençons par cette brève sur l'insécurité. Une mère et sa petite fille ont été tuées la nuit dernière à coups de couteau sur la colline Muzingi, zone Gisanze, en commune Gacho de la province Muyinga. Les criminels de cet acte ignoble n'ont pas encore été identifiés. Selon des informations en provenance du site de déplacés de Muzingi où résidaient les victimes, la mère Janine Kawagaligwa vivait avec ses deux enfants dans ce site. Une source sur place indique que 5 personnes, dont 2 voisins des victimes, ont déjà été appréhendées par la police pour des raisons d'enquête. Il y a 2 semaines, dans cette province de Muyinga, une autre femme, connue sous le nom de Jocelyne Niyonguru, de la colline Bihogo, en commune de Gasogwe, avait été tuée à coups de bâton par son mari. La dépouille d'un membre du parti CNL a été placée dans une morgue inconnue jusqu'à présent. Innocent Baloutouana Yos, originaire de la colline Kivumu, commune Matongo, en province de Kayanza, a trouvé la mort il y a 2 semaines au bureau du Service national des renseignements à Bujumbura suite à des actes de torture. Il avait d'abord été torturé par des agents de la documentation à Kayanza avant d'être hospitalisé et par la suite transféré au bureau du SNR à Bujumbura. Sa famille demande à l'administration de lui indiquer où se trouve le cadavre pour qu'il puisse l'enterrer en toute dignité, mais sans réponse. Vanessa Mohiteka.
Innocent Baloutouana Yos a été arrêté par la police, accompagné par Imbonerakure, jeune affilié au parti CNDD-FDD en date 16 novembre cette année dans sa colline natale Kivumu, commune Matongo en province de Kayanza. Il a été acheminé au cachot de cette commune sans le motif de son arrestation. Il a été sorti du cachot par les agents du service national de renseignement vers une destination inconnue, comme un de ses proches l'indique.
Le PG qui s'appelle Gilbert, affecté dans la commune Matongo, en compagnie du représentant des Imbonerakure dans la commune Matongo, il s'appelle James Nitunga, ils l'ont embarqué jusque dans le cachot communal de Matongo. Le lendemain, en date du 17, le service national de renseignement l'a transféré. Il a été sérieusement torturé.
Après la torture, Innocent Baloutouana Yos a été admis à l'hôpital de Kayanza pour les soins. Il a été par la suite déplacé vers Bujumbura au bureau de la documentation. En date du 4 de ce mois de décembre après, Alice Nsaviyumva, l'administrateur de la commune Matongo, a appelé la famille d'Innocent Baloutouana Yos, lui demandant d'aller récupérer le cadavre dans une morgue.
Au bureau du service des renseignements à Bujumbura, la torture sur lui a continué. C'est le 4 décembre que l'administrateur Alice Nsaviyumva a annoncé à la famille d'Innocent Baloutouana Yos d'aller récupérer le corps de leur fils.
La famille continue de demander à l'administration de préciser la morgue dans laquelle se trouve le corps d'Innocent Baloutouana Yos pour l'enterrer en toute dignité, mais sans réponse.
L'administrateur de la commune Matongo, Alice Nsabiyumva, a sans souci annoncé à la famille d'Innocent de descendre aussi au Bujumbura, récupérer le corps sans préciser à quel morgue de l'hôpital. Le véhicule qui serait loué pour le transport du corps ne peut pas être en dessous de 200 000, en plus du cercueil de 100 000. Et l'administrateur n'a pas précisé quel morgue de l'hôpital.
À ce sujet, nous avons essayé de joindre par téléphone l'administrateur de la commune Matongo, Alice Nsabiyumva, mais sans succès.
Vanessa Mohiteka, après la mort d'un autre membre du CNL, Augustin Matata, suite lui aussi à la torture subie au Service national des renseignements, Aimé Maguela, représentant du CNL en Europe, indique que 7 autres membres du CNL ont disparu dans les mêmes circonstances. Il demande aux Burundais d'être solidaires face à ce gouvernement qui ne protège pas son peuple. Maguera demande à la communauté internationale de ne pas abandonner le peuple burundais. On l'écoute.
Il faut remonter en 2003 avec toutes ces opérations qu'ils ont menées justement depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y avait une opération dénommée Mukube, tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé, du moins des massacres dans plusieurs endroits, et en 2003, 2004, 2005, 2006 avec l'opération là, très horrible de Muyinga. Et aussi, il y a aussi en 2010 avec l'opération Safisha. En fait, il serait mieux peut-être de nous limiter sur la période récente, notamment à partir du mois de novembre où il y a effectivement une autre opération initiée par le système CNDD, justement dans le sens de réprimer à fond les militants et toute personne qui pourrait se réclamer de l'opposition. Donc, si on se réfère du moins de la nouvelle vague d'arrestation à partir du mois de novembre, mi-novembre, donc on dénombre effectivement plus de 8 tués par les services de renseignement et tués dans les mêmes circonstances. Donc, nous sommes dans pleine vague de répression initiée par le président lui-même et sa clique.
Poursuivons avec cette brève. Certains des agents des renseignements connus pour être des tortionnaires de personnes arrêtées ou enlevées commencent à être arrêtés à leur tour. Les informations que détient la radio Nzamba rapportent que Gérard Ndayisenga, cité dans de nombreux cas de torture dans les cachots du SNR, est incarcéré à la prison centrale de Mimba, Bujumbura, depuis hier soir. Il est accusé d'avoir joué un rôle dans la torture d'Augustin Matata, un des leaders du CNL qui a récemment succombé à l'hôpital. Gérard Ndayisenga est connu aussi dans les actes de torture dans les provinces de Mwaro et Muyinga où il était chef du SNR. Ce vendredi, les membres du parti CNL ont refusé de participer à une réunion de la commission économique du conseil communal de Giharo en province de Rutana. Et pour cause, la réunion s'est tenue à la permanence du parti CNDD-FDD. Ils se sont alors dit exclus de cette réunion. Le point avec Joséphine Jones-Munzimana.
Selon une source sur place en commune de Giharo, le président de cette commission, en même temps secrétaire communal du CNDD-FDD dans cette commune, en collaboration avec le président du conseil communal, lui aussi militant du CNDD-FDD, a décidé que cette réunion se tienne à la permanence communale du CNDD-FDD, alors qu'elle se tenait habituellement dans une des salles de la commune. La même source nous dit que 4 militants du CNL qui font partie de la dite commission ont refusé de participer à cette réunion, parce que n'ayant pas compris ce changement brusque, étant donné même que la salle habituelle des réunions était disponible. Ces militants du CNL sont restés à l'extérieur et ont participé à la réunion de la commission, les seuls militants du CNDD-FDD. Les militants du CNL se sont insurgés contre cette façon de faire. Ils disent que la permanence est réservée aux seules réunions du parti et non aux réunions de la commune. Pour s'être présentés le jour de cette réunion, ces militants du CNL auraient même demandé leur jeton de présence après la réunion. Mais le président du conseil leur a rétorqué qu'ils n'ont pas le droit, arguant qu'ils ont boycotté purement et simplement la réunion. Seuls les membres du CNDD-FDD ont été les seuls à percevoir les frais représentant les jetons de présence. Les militants du CNL, membres du conseil communal Guéharo, ont été mécontents. Ils disent que les responsables du CNDD-FDD qui sont membres du conseil ne sont pas capables de distinguer les affaires de la commune et ceux du parti au pouvoir CNDD-FDD. Ils pensent que la fois prochaine, ils vont se ressaisir et tenir des réunions de la commune dans des endroits connus de la commune, comme cela se fait habituellement, et non dans une salle du parti au pouvoir. Nous avons cherché à avoir la réaction du président du conseil communal de Guiharo de Wansengendandoumé, mais sans succès.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Suite de cette édition, avec la recrudescence des cas positifs au Covid-19 qui menacent le Burundi comme d'autres pays de la région et du monde entier, le gouvernement du Burundi semble avoir changé de comportement. Les autorités reconnaissent ouvertement une forte augmentation des cas positifs et prennent de nouvelles mesures comme l'implantation de nouveaux sites de dépistage en mairie Bujumbura. Chez les voisins, l'augmentation des cas pousse les gouvernements à prendre des mesures, y compris l'augmentation des heures de couvre-feu ou encore la quarantaine pour ceux qui viennent de l'extérieur. Tour d'horizon avec vous, Beni Axelakana.
C'est devenu difficile de cacher le cas de Covid-19 au Burundi. Selon des sources concordantes dans certaines institutions, tant étatiques que privées, bon nombre de travailleurs ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours. On cite l'exemple de l'Assemblée nationale, où au moins une quarantaine de députés ne se présentent plus au palais des congrès de Kigobe. Certaines lois, dont l'adoption exige le quorum, doivent attendre le retour des élus malades. Dans un communiqué de ce vendredi adressé au personnel de la banque commerciale du Burundi, Bankobu, et à sa clientèle, le port de masque devient obligatoire. Selon des sources au sein de cette banque, elle enregistre de nombreux cas positifs au Covid-19 depuis un moment. Elle promet par ailleurs à son personnel de faciliter le dépistage et la vaccination. Au cours de cette semaine, le comité de crise chargé de la lutte contre la COVID-19 au sein du ministère de la Santé a annoncé l'implantation de 6 nouveaux sites de dépistage en mairie de Bujumbura. Les habitants des centres urbains craignent une montée en flèche des contaminations durant ces jours des fêtes de fin d'année. Même s'ils reconnaissent que le gouvernement a franchi un pas dans ce secteur, les habitants s'inquiètent de l'absence d'une politique vaccinale contre le COVID-19 comme solution à la pandémie. Selon des chiffres par le ministère, au moins 108 personnes sont testées positives au COVID-19 par jour, soit un taux de positivité de 15%. La réactivité des autorités burundaises est très tardive, contrairement aux pays voisins qui agissent assez tôt face à cette menace. Le Rwanda, par exemple, vient d'augmenter les heures de couvre-feu, la réduction des participants aux fêtes et la suspension de certains événements qui rassemblent beaucoup de monde. Les mêmes mesures sont de mise en Ouganda. Ces deux pays affichent également ces jours une augmentation inquiétante des cas positifs au Covid-19. La virulence du virus est due aux nouveaux variants, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui alerte sur la propagation inédite d'Omicron déjà déclarée dans plus de 77 pays du monde. Le directeur général de l'OMS a indiqué mardi dernier que le variant Omicron serait présent même dans les pays où il n'a pas encore été détecté.
Merci Beni Axelakana. Début hier vendredi de la campagne de supplémentation en vitamine A chez les enfants de moins de 5 ans au camp des réfugiés burundais de Nduta en Tanzanie. L'activité est organisée tous les 6 mois, mais cette phase suscite peu d'engouement selon des sources sur place. La raison, selon les parents, est que la Croix-Rouge n'a pas prévu parallèlement le déparasitage en mébendazole. Les précisions de Parfait Moudassigana.
Cette campagne de supplémentation en vitamine A va durer 3 jours et concerne les enfants âgés de 6 à 5 à 9 mois. Les réfugiés estiment que les parents n'ont pas été suffisamment mobilisés pour répondre à cette activité.
Sur les sites de vaccination, on voit peu de monde. D'abord parce que les gens, ça devrait recevoir mébendazole et vitamine A, mais la Croix-Rouge ne distribue que vitamine A. Ça, ça a dégoûté les parents. Autre chose, les parents ne sont pas sensibilisés. À l'époque où l'ONSF organisait cette activité, il y avait des communiqués au sein de l'église, il y avait des agents de santé communautaire qui circulaient dans des villages pour mobiliser les parents. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment cette mobilisation.
Les parents, de leur côté, se désolent du fait que la Croix-Rouge n'ait pas pensé à déparasiter leurs enfants.
nous apprécions cette activité, mais nous demandons à la Croix-Rouge, dans la prochaine occasion, de se munir de son médicament, car il est utile dans cette période pluvieuse où les verminoses sont nombreuses dans les enfants.
Nous n'avons pas pu avoir la version des responsables de la Croix-Rouge au camp d'Onduta. Il est prévu de vacciner 18 000 enfants dans ce camp qui héberge plus de 80 000 réfugiés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les carences en vitamine A touchent 190 millions d'enfants qui n'ont pas encore l'âge d'aller à l'école en Afrique et en Asie du Sud-Est.
Je vous le disais dans les titres, les administrateurs communaux sont désormais les employeurs principaux de la commune. Tous les fonctionnaires au sein de la commune devront leur rendre compte. La décision a été prise par le ministre de la fonction publique dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Nous allons revenir sur cette mesure qui inquiète plus d'un. Au cœur de la société vous est présenté par Josine Kazé.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Tout employé de l'État, qui soit sous contrat ou sous statut, qui œuvre au sein de la commune, l'administrateur est tenu de savoir la tâche qu'il exerce. Cet employé de l'État dressera également un rapport à l'administrateur. C'est la position du ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi. Selon Tade Ndikumana, l'employeur principal au sein de la commune, c'est l'administrateur. Quelle est la valeur ajoutée de cette mesure? Serait-elle porteuse des conséquences? Les réponses, c'est dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 18 décembre 2021. À la présentation, Josine Kazé, bienvenue. Dans une réunion tenue le 6 décembre dans la province de Chimitoke avec des administrateurs communaux de plusieurs provinces, Tade Ndikumana, le ministre de la fonction publique, a signifié aux administrateurs communaux qui sont désormais les employeurs principaux de la commune.
Notre objectif est que tout fonctionnaire de l'État rende des comptes au niveau de la commune. Vous, administrateurs, il faut comprendre que vous êtes des employeurs de tous les fonctionnaires de l'État, issus de tous les ministères. Il faut les évaluer pour qu'ils obtiennent des salaires compte tenu de leur rendement. Qu'ils soient en sous-contrat ou en sous-statut, tu dois avoir son rapport pour le transmettre ensuite au gouverneur, pour que personne ne soit embauché alors qu'il n'a pas vaqué convenablement à sa fonction.
Dans notre mini-magazine, nous avons préféré nous focaliser dans le domaine de l'enseignement. L'expert en éducation libérale Dimashira Kandi estime que l'annonce du ministre Tade Ndikumana va entraîner une politisation de ce secteur.
Si cette décision est mise en application, finalement, le secteur de l'éducation dépendra de trois ministères. Le ministère de l'enseignement et le ministère de la fonction publique, puisque les enseignants signent le contrat avec le ministère de la fonction publique. Il y a le ministère, cette fois-ci, de l'intérieur, puisque les communes dépendent du ministère de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de mettre le désordre, de renforcer le désordre dans le secteur de l'éducation. Avec toutes les conséquences, les enseignants seront engagés sur base de l'appartenance politique. Et tous les autres enseignants qui ne seront pas membres seront malmenés ou contraints de quitter le secteur. Le système de cotation sera biaisé parce que les administrateurs communaux n'ont pas les compétences d'évaluer les enseignants. Donc, c'est la meilleure façon de faire en sorte que le secteur de l'éducation soit complètement délabré, fortement délabré, parce que même aujourd'hui, le secteur est complètement délabré.
Selon l'expert en éducation, le système éducatif burundais a d'autres problèmes autres que les protocoles administratifs.
Le problème qui mine le secteur de l'éducation, ce n'est pas parce que les enseignants ne sont pas payés par la commune, mais c'est plutôt la mauvaise formation des enseignants, le manque du matériel didactique, les élèves qui n'ont pas ni les bancs ni les pupitres, les programmes qui ne collent pas avec les besoins du pays. C'est le nombre pléthorique d'écoliers et d'élèves dans une classe. Parfois, on a même plus de 200 élèves par classe. c'est la qualité de formation des enseignants, bien sûr. Si cette mesure est mise en application, c'est la meilleure façon de politiser l'enseignement. Parce que tout simplement, les administrateurs communaux sont membres du parti au pouvoir. Donc, ça signifie que tous les enseignants, pour qu'ils soient bien cotés, ils devront adhérer de force au parti au pouvoir. C'est la meilleure façon de renforcer le désordre qui existe dans le secteur de l'éducation. Et je pense que les acteurs du système éducatif burundais devraient faire en sorte que cette mesure ne soit pas mise en application dans l'intérêt du système éducatif burundais, parce que tout simplement, le CNDD-FDD va contrôler tout le système éducatif burundais et la qualité de l'enseignement va fortement souffrir.
La mesure du ministre inquiète également les syndicats. Dans une interview accordée au journal Iwachu, Mélance Hakizimana, le vice-président de la Confédération syndicale du Burundi, Kosibu, dit ne pas comprendre comment l'administrateur va évaluer tous les fonctionnaires résidant dans sa commune alors que certains ne relèvent même pas de son ministère. Pour Mélance Hakizimana, si le pays a pris le chemin du dialogue social, cette question doit être débattue afin d'éviter de mauvaises interprétations. Bref, la loi ne prévoit nulle part que l'administrateur est le chef hiérarchique de l'ensemble des fonctionnaires, peut-on lire dans l'article. C'est par ici donc que nous mettons en point final à notre mini-magazine au cœur de la société. Merci pour votre attention. Josine Kazé, je vous le présentais. Au revoir et à la prochaine.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Terminons cette édition avec la revue de presse hebdomadaire. C'est avec vous, Georges Nimenya.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue, chers auditrices et auditeurs, à cette revue de presse de ce 18 décembre 2021. Le journal en ligne SOS Média écrit sur le conflit de leadership de l'Église pour l'unité du Saint-Esprit au Burundi et Zebu Asig. Nous sommes au sud du pays, en commune Nyanzarak de la province Makamba. Le conflit a entraîné l'emprisonnement de 4 pasteurs de cette église. Ils ont été arrêtés mercredi et jeudi de la semaine en cours par la police et le représentant provincial des renseignements à Makamba, conduit par après au cachot du commissariat provincial de police. Des sources qui se sont confiées au journal, le conflit de leadership est à l'origine. Lors d'une conférence des pasteurs de cette église tenue en date du 18 novembre dernier, 84 pasteurs sur 111 qui étaient présents ont décidé de suspendre pour une période de 3 mois les leaders de cette église à Nyanzarak. Ils s'étaient convenus de renouveler les organes dirigeants de la mission, mais les organes sortants s'y sont opposés. L'une des parties en conflit s'est confiée à l'administrateur de la commune Nyanzarak et cette autorité a mis en cause la décision prise par la conférence de suspendre les leaders de cette église pour une durée de 3 mois. Cette décision a provoqué des remous au sein de fidèles et la prière a été suspendue dimanche passé. Politique avec le journal Iwachu. Ruyigi, un député, déplore les arrestations des membres du CNL. Le député Pascal Izouemi a été élu dans la circonscription de Ruyigi pour le compte du parti Congrès National pour la Liberté, CNL en sigle. Il déplore les arrestations qui s'observent dans ces jours contre les militants du CNL. Il pense notamment aux 4 membres de son parti arrêtés puis mis en prison sans motif valable. Il s'agit d'Emmanuel Buchingenza de la colline Ruvera en commune Ntinyinya, arrêté le 12 décembre de cette année parce qu'il portait un t-shirt portant les signes de son parti. Il s'agit aussi des 3 autres membres incarcérés au cachot de la commune Butezi. Pascal Bizumuremyi demande la libération sans condition des membres de son parti. Il appelle également au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire à se saisir de la question et intervenir pour les faire libérer. Page économie pour continuer. Le journal Burundi Echo se pose la question de ce que les agriculteurs tireront comme profit de l'engrais fabriqué par la société FOMI. Cela fait 2 ans que des essais se font sur les performances des engrais de FOMI sur des cultures vivrières. Les essais portaient notamment sur le riz, le maïs et la pomme de terre. Après les essais, les chercheurs ont proposé de nouvelles formules à utiliser pour ces 3 cultures. Le constat étant que la dose a été multipliée par 2 pour les nouvelles formules, sauf pour le riz qui a connu une légère diminution. Les agriculteurs s'inquiètent que le rendement n'est pas bon par rapport à celui généré par les engrais minéraux. C'est notamment les producteurs du riz de la plaine de Limbo qui restent pessimistes quant à la rentabilité, même si on a augmenté les doses. Terminons cette revue de presse par cet élément de culture écrit par l'agence burundaise de presse. La province de Kayanza a organisé une compétition des clubs de tambourinaires pour choisir le meilleur club qui va représenter la province dans la compétition nationale qui aura lieu à Gitega le 20 décembre de cette année. Comme l'indique Sylvain Bakanibona, conseiller socio-culturel du gouverneur à Kayanza, la compétition s'inscrit dans le cadre de la clôture de la semaine dédiée au tambour. Pour cela, chaque commune est tenue de choisir un club pour la représenter. Mais, à son grand regret, seuls trois clubs de tambourinaires se sont présentés à la compétition. Il s'agit de deux clubs de la commune Kayanza et un club de la commune Muruta. Le conseiller socio-culturel constate que les jeunes ne participent pas aujourd'hui à ce genre de compétition. Il appelle les responsables d'intégrer les jeunes pour que cet héritage et patrimoine mondial de l'UNESCO ne disparaisse pas. Voilà, madame, messieurs, c'est par cet élément de culture que nous terminons cette revue de presse. Jean-Génie Ménia, je voulais présenter, je vous souhaite de passer des meilleurs moments là où vous êtes. Au revoir et bon week-end.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Fin de cette édition, merci à la rédaction de la radio Inzamba Arate Kakaoui pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.